André Malraux, cinquième cassette, première face. Page 160. Quelques jours après que Claude et Perkin avaient quitté le bourg siamois, les feux avaient commencé à apparaître, plus nombreux chaque nuit, à mesure qu'ils approchaient à la fois de la région de Perkin et des travaux du chemin de fer. Ils barraient l'horizon, maintenant, à chaque nouvelle déchirure de la forêt. Invisible dans la nuit pleine de cigales, la colonne, et derrière la colonne, le gouvernement du Siam. « Les hommes comme moi doivent toujours jouer d'un état », avait dit Perkin. L'état était au fond de cette obscurité, chassant devant lui les tribus animales avant de chasser les autres, allongeant de kilomètre en kilomètre la ligne de son chemin de fer, enterrant d'année en année, toujours un peu plus loin, les cadavres de ses aventuriers. Le jour, quand apparaissaient les fumées aussi nettes que les troncs, la jumelle découvrait entre elles, sur le ciel, des crânes peints en rouge. Ces feux, dont le crépitement semblait étouffé par l'immensité, quand atteindrait-il le chemin qui permettrait de passer? La percée de la ligne du chemin de fer, très loin en arrière, lançait son phare vers le ciel dès que les fumées commençaient à se perdre dans les ténèbres, comme si la grande fuite des moilles, leur moutonnement de bétail en transhumance sous les feuilles, eût trouvé son centre dans le triangle lumineux projeté sur le ciel par les blancs. À travers une nouvelle déchirure des arbres, un paysage profond commençait à se creuser, comme vu d'un avion, sans rien qui rattachât au sentier ses lignes plongeantes, ses lointains saturés d'un bleu épais. Le soleil qui se perdait dans ce fond, qui frissonnerait comme dans l'eau, masse vitreuse sur les crêtes, poussière autour des palmes. Au loin, quelques cloches blanches bouddhiques dans la verdure noire, annonciateurs des territoires de Perkin, Samrong, S-A-M-R-O-N-G, le premier village laotien allié, le premier dont il connut le chef. Devant lui, les fumées montaient dans l'immensité qu'elles agrandissaient encore, et leur avance se liait si directement à la vie de la forêt qu'elle semblait invincible, venue de la terre et non des hommes, comme un incendie ou une marée. Pourquoi diable marche-t-il sur le village où les guerriers sont armés? Il faut qu'ils y soient obligés. La famine ? Demanda Claude. La colonne les a abandonnés maintenant. Il est entendu qu'elle ne dépassera pas la rivière. Au-delà, c'est la région de Savan, S-A-V-A-N, et au-delà, la mienne. La rivière en nu brillait là-bas, incandescente, seule blanche dans le gouffre bleu. Il faudrait aider Savan à défendre son village. Dans ton état, en suivant la crête, nous serons là-bas bien avant eux. Un jour de retard au plus. Il regardait toujours le village et la forêt, mais bien qu'il rongeât furieusement ses ongles pour ne pas se gratter, son regard se perdait. Claude comprenait trop bien la fraternité qu'il attirait là pour insister. Et l'anxiété le faisait taire. Ainsi que s'ils fussent nés des hautes fumées qui avançaient inexorablement à travers l'étendue, comme les génies de la forêt, des coups, frappés l'un après l'autre, se perdaient dans le grand silence ensommeillé. Trop faibles pour remplir cet enfer qui retombait dans la masse des arbres dès qu'ils en sortaient, avec une trajectoire de pierre, épouvantée par l'oppression du soleil. Les intervalles réguliers qui séparaient ces coups perdus dans la lumière leur donnaient le caractère d'une annonce solennelle frappée dans une planète lointaine. Claude se souvint du son de pieds de biche sur la pierre. « Écoute. »«
Quoi ?»
Il n'écoutait que la descente de sa douleur. Il cessa de respirer. Un, deux, trois, quatre. Les coups se rapprochaient, nets mais sourds, presque spongieux. La lente marche des fumées en accentuait l'accélération. Ce sont des hommes, reprit Claude. Est-ce qu'ils construiraient une espèce de retranchement? Les moilles, ce ne sont pas eux. Les fumées avancent toujours et le bruit est bien plus près de nous. Perken essayait d'orienter sa jumelle grâce au son, mais en vain. Le brouillard bleu de la chaleur, sans masquer la forêt, en voilait les formes. Les élancements de son genou se déclenchaient en lui comme des coups de cloche, un à un, sans s'accorder aux coups lointains, et aucune forme humaine n'apparaissait sur cette nature haineuse qui semblait susciter elle-même ses fumées et cet inexplicable martèlement. En bas, un point étincelant parut comme un éclat de soleil sur une vitre. Il n'y avait pas d'eau par là. Il regarda de nouveau, arrêta la charrette, regarda encore. Son pied douloureux et mort à la fois cachait la lumière. Il se souleva, ne tentant pas même d'écarter cette chair séparée de lui, comme s'il eût pu souffrir dans la chair d'un autre. Maintenant il voyait. Claude tendait la main, mais Perken ne lui passait pas les jumelles. Le point étincelant montait et descendait, intermittent comme le crépitement des coups qui semblaient naître de lui. Perken laissa retomber sa main. Claude voulut prendre les jumelles qu'il ne lâchait pas. Il desserra enfin ses doigts. « La rivière est pourtant là-bas, » dit-il. Claude fixait du regard le point lumineux. Marmite, objet de campement, loin en avant de la rivière. Tout près, des lignes minces, croisées, des formes humaines, des surfaces géométriques plus grandes. Celles-là, il les connaissait, des tentes. Les lignes croisées étaient des faisceaux. Lui aussi regarda de nouveau la rivière. Elle était loin en arrière, fort loin. Et un nouveau point lumineux s'alluma en avant, suivant les fumées des moilles. « La colonne ?» demanda Claude. Perken se taisait. « Enfin, pour ceux-là aussi, je suis déjà mort. » Il regardait alternativement sa jambe et cette lumière avec une sorte d'horreur. Le regard abandonna la jambe. Ces maillets de bois qui résonnaient à travers l'étendue en frappant les piquets de ses tentes comme des barriques sonores dominaient peu à peu, à mesure que le son s'étendait, les fumées, la forêt même, tout ce qui s'écrasait sous le soleil. La volonté des hommes reprenait ici sa place de commandement au service de la mort. Malgré la douleur, il se sentait furieusement vivant contre cette affirmation de sa déchéance. De nouveau combattre. Et pourtant, tout ce qu'il avait fait était devant lui comme son propre cadavre. Avant une semaine, la colonne pouvait être chez lui et sa vie n'aurait été qu'une attente vaine. Les faisceaux étaient là. La colonne avançait, indifférente aux grands coudes de la rivière d'où montait une phosphorescence bleuâtre de lumière électrique. Les tentes étaient là. Et pourtant, il n'éprouvait pas de certitude, mais une anxiété plus écœurante, semblable à ces demi-pertes de conscience qui précèdent les vomissements. Attentif avant tout, contre sa volonté, à la douleur qui montait et descendait comme un bateau, il retrouvait la colonne et la mort dans son soulagement. Attachées l'une à l'autre, avançant toutes deux vers leur but, comme les grandes fumées. Il se peut, pensa-t-il, que faire sa mort me semble beaucoup plus important que faire sa vie. Il leva les jumelles sur le village qui reparut avec une netteté surprenante entre les deux masses troubles des souliers. Dans sa vie, qui dévalait maintenant en précipice, ce village s'enfonçait comme une pierre à laquelle il devait s'accrocher, comme celle du temple. Et les jumelles revenaient d'elles-mêmes vers la colonne. Mais les deux vagues se suivaient, et il faudrait combattre les Stiègnes d'abord. Chez Savant aussi, nous serons un bon moment avant eux. Tu as une grande confiance en ce type ?
Non, je ne suis sûr que des chefs du Nord. Nous n'avons pas le choix.
Chapitre 2, page 165. Les coups de feu de plus en plus précipités, mêlés maintenant aux échos, entouraient Samrong et ses cloches bouddhiques de leurs points intermittents, à l'exception d'une tache noire. À l'intérieur de leurs courbes presque fermées, les cigales nocturnes, la lueur roussâtre d'un fanal, la paix laotienne, pesante, emprisonnée.
Toujours rien, Claude, en bas ?
Perken ne pouvait plus se lever. Claude reprit les jumelles. Impossible de rien voir. Il n'avait pas reposé la lorgnette que la lueur courte d'un nouveau coup de feu parut tout près d'une cime. Un écho répercuta la détonation un ton plus haut. Un nouveau coup. Leur lueur semblait sale, si près des étoiles.
Est-ce que les Stiègnes auraient encerclé le village ?
Impossible. Perken montra du doigt une colline indistincte. Nos guetteurs ne tirent toujours pas par là, donc ils ne tentent pas de monter.
Moi, savoir y en avoir mitrailleur du côté travaux du chemin de fer, dit Xa.
Les feux tremblotaient comme des flammes rougeâtres au-delà des coups de fusil. Perken ne cessait de les regarder. Où ils luisaient, la colonne n'était pas encore parvenue. Une forme passa dans le champ de la jumelle, très près, cachant celle que Perken examinait.
« Qui va là ?»
Allongé sur un bas flanc, il dominait le jardin de la hauteur des pilotis. La forme disparut. Il tira dans sa direction, au hasard, guettant un cri. Rien.
C'est la seconde fois.
Depuis que tu leur as conseillé d'arrêter la colonne, répondit Claude, les choses se gâtent. Tant qu'il ne s'agissait que de les aider contre les Stiègnes,
tas d'abrutis !
Les guetteurs postés par Perken tiraient beaucoup plus maintenant. C'était le flot des Stiègnes qui avait lutté contre la colonne qui venait battre le village.
Tu es sûr de ce que tu leur dis ?
Je crains que s'ils envoient des parlementaires, le chef de colonne ne s'en fiche, et que s'il tire, on ne riposte avec les mitrailleuses.
Les instructions ne permettent pas à la colonne de lutter contre eux.
Ils sont bouddhistes, sédentaires, armés comme mes hommes. On négociera. Mais s'ils laissent entrer les miliciens sans condition, on administrera, comme disent les Siamois. Il n'y a que savants qui comprennent cela. Mais son autorité de chef devient aussi tremblotante que ses coups de fusil. Il n'y a pas à discuter. S'ils entrent ici, le chemin sera ouvert jusque chez moi. Je ne tiens fortement que les chefs du Nord. L'odeur sauvage des feux passa, portée par la nuit.
Ce n'est pas seulement pour organiser leur défense contre les Stiègnes que nous nous sommes arrêtés.
Les coups de fusil, de plus en plus nombreux, nourrissaient par leur rythme de mitrailleuse au ralenti l'obsession de Perken. Ils paraissaient et disparaissaient, accentuant la constance des feux immobiles. De nouveaux feux s'allumèrent. Au fur et à mesure que les tirs de barrage se précipitaient, ils apparaissaient, lointains et fixes, sur plusieurs rangs de profondeur. Mais sous l'éclat rapide de la poudre, leur immobilité était si solennelle qu'elle semblait indifférente au combat, née de la chaleur et de la nuit.
Crois-tu qu'ils puissent se réunir pour donner l'assaut ? Demanda Claude. Ils sont maintenant très nombreux, regarde les feux. Perken réfléchit. Ils prendraient certainement le village, mais ils sont bien incapables de s'unir. Mes hommes et les chefs que je voulais réunir sont des Laotiens, bouddhistes comme les gens de cette région-ci, et les maintenir ensemble est déjà presque impossible. Ajoute que les Stieng attaquent toujours les passages, forcément. On donne mal un assaut devant des cadavres anciens, on le prépare mal dans leur odeur. C'est surtout la famine qui les pousse en ce moment. Demain, ils auront de nouveau la colonne sur les reins. Il réfléchit encore. Nous aussi. La fusillade reprit, diminua de nouveau comme une courbe sur les feux. Un homme sortit de l'ombre à l'entrée de la cave, ses pieds nus touchant les barreaux de l'échelle comme des mains, sans un bruit. Dans la lumière trouble du photophore, la PHO-TO-PHO-RE. C'est une espèce de lanterne. La tache claire s'élevait. Tête, buste, jambes. Un messager. Perken se souleva, grimaça de douleur, retomba. La montée de la douleur était en lui si dominatrice que pour ordonner, il en guettait l'affaiblissement comme la descente d'un être vivant. L'homme déjà parlait rapidement, par phrases courtes, avec le ton de ceux qui récitent. Claude devinait qu'il avait appris par cœur ces phrases siamoises et regardait Perken comme s'il eût pu comprendre plus aisément le silence d'un Européen. Perken cessa de considérer l'homme qui parlait toujours. Les paupières abaissées, il eût semblé endormi, sans l'imperceptible frémissement de ses joues. Soudain, il leva les yeux. « Qu'y a-t-il ? » demanda Claude. « Il dit que les Stieng savent que je suis ici et que c'est pour cela qu'ils attaquent et reviennent. D'ailleurs, nous sommes des ennemis moins dangereux que la colonne. » La fusillade venait de s'arrêter. Le messager repartit, accompagné de Xa. Le village n'est pas encerclable. Nous avons les fusils. On entendit le double écho de deux coups de feu. Le silence retomba. Il dit aussi que des ingénieurs du chemin de fer sont avec la colonne. Claude commençait à comprendre. Mais ils travaillent activement là-bas. Ils ont fait sauter au moins 10 mines dans la journée. Chacune de ces explosions tombe sur moi comme une engueulade. Ils avancent, il n'y a pas de doute. S'ils viennent par ici, changer leur tracé maintenant ? Perken ne fit aucun geste. Il regardait l'ombre devant lui, sans bouger. Passer chez moi leur ferait faire de sérieuses économies. Je pense qu'ils sont pleins de courage, les moïs filent comme des bêtes. Ils ne passeront pas là-bas. Mais même en colonne. Claude ne répondit pas. Même en colonne, répéta Perken. Il se tut encore. Avec 3 mitrailleuses seulement, 3 mitrailleuses, il n'aurait jamais pu passer. La fusillade reprit, faible, s'arrêta de nouveau. Ils vont se tenir tranquilles, voici le jour. Savant doit venir au lever du soleil, je le pense. Tant d'imbéciles, s'ils laissent venir la colonne. Chapitre 3, page 170. Savant gravit l'échelle. Plusieurs aubes passeraient-elles encore avant la catastrophe? Perken regardait ses cheveux gris en brosse, ses yeux inquiets, son nez de Bouddha laotien qui s'élevait dans l'encadrement de la porte. Depuis que la mort était en lui, les êtres perdaient leur forme. Ce chef qu'il connaissait existait moins à ses yeux, individuellement, que le vieux chef du village Stieng. Pourtant, ses mains déjà prêtes à la discussion un homme bon seulement pour parler. D'autres têtes parues, superposées. Des hommes le suivaient. Tous entrèrent. Savant hésitait. Il n'aimait pas à s'accroupir devant les blancs et détestait s'asseoir. Il resta debout, considéra ses pieds avec attention, ne dit rien. Chacun attendait. Ce silence asiatique exaspérait Claude. Perquet en avait l'habitude, mais il le supportait plus douloureusement depuis qu'il était blessé. Les attentes lui faisaient éprouver avec violence son immobilité. Il se décida le premier. « Si la colonne vient ici, vous savez ce qui va se passer. » Maintenant, on commençait à distinguer la fuite des pentes jusqu'à l'horizon. À quelques centaines de mètres, des crânes accrochés à des arbres solitaires sortaient de la nuit. Le vent de l'aube inclinait les cimes et les grandes vagues de végétation qui se répétaient de colline en colline semblaient continuer son mouvement, portées par la fuite invisible des tribus. Une mine sauta. Il ne voyait pas la percée du chemin de fer de l'autre côté de la cave. Mais aussitôt après le grondement qui emplit la vallée, ils entendirent le bruit de chute des pierres et des quartiers de roc en pluie. Après-demain, la colonne sera là. Je vous répète que si le village résiste avec les armes à feu que vous possédez, elle remontera vers le nord. Sinon, le chemin de fer passera par ici. Voulez-vous vous soumettre aux fonctionnaires siamois ? Savant répondit par un geste négatif mais plein de méfiance. Il est plus facile de combattre une colonne qui n'a pas reçu l'ordre de vous attaquer que de combattre les troupes régulières venues par la voie ferrée. Mais d'ici là, dit-il en français à Claude, je serai peut-être mort. Saisissant accent, de nouveau il croyait à sa vie. Des indigènes entraient un à un, s'accroupissaient dans la cave. Ils ne parlaient pas siamois entre eux et Perquen ne comprenait pas leur dialecte, mais leur hostilité était visible. Savant les montra du doigt. Ils ont d'abord peur des Stieng. Contre les fusils, les Stieng n'existent pas. Le doigt du chef, resté en l'air, se tourna vers la forêt. Perquen prit ses jumelles, regarda les arbres. Au sommet des plus grands, des hampes montaient une à une, surmontées de boules grossières. Les Stieng ne fuyaient plus. À défaut de fétiches peu nombreux, tout un monde de crânes, d'animaux tués à la chasse surgissait de la forêt, inscrivait la menace de la sauvagerie sur le ciel du matin, comme si un foisonnement d'eau né du crâne de Gore fut descendu jusqu'à la rivière, en fuite lui aussi dans une prolifération d'insectes. Cages thoraciques, crânes, jusqu'à des peaux de serpents se balançaient là-haut, d'une blancheur de craie, soudaine affirmation de la famine dont les remous torturaient les migrations des sauvages. Et sur la droite, tout près de la rivière, obsédant, un des fétiches qui figure les pleureuses des morts, d'une douleur inconnue aux civilisés, surmontée d'un crâne humain entouré de petites plumes. Perquen abaissa ses jumelles. De nouveaux indigènes entraient dans la case. Deux portaient des fusils qui brillaient vaguement. Il se souvint de la case où pendait la veste de Grabeau. Vous jouez votre vie à tous. Si vous envoyez des parlementaires et tirez sur la colonne, elle n'insistera pas. Je connais ses instructions. Et elle peut prendre les Stieng à revers, sinon... Plusieurs des assistants comprenaient le siamois. Une protestation véhémente, une sorte d'aboiement coupa sa phrase. Savant hésita, se décida. Ils disent que c'est ta faute si les Stieng nous attaquent. Ils vous attaquent parce qu'ils crèvent de faim. Tous maintenant regardaient Savant, qui hésita de nouveau et se décida enfin. Que sans toi, ils nous laisseraient. Perquen haussa les épaules. Et qu'ils veuillent que tu t'en ailles. Perken frappa le bas flanc du poing. Tous les indigènes accroupis se relevèrent avec un bond de grenouille. Les deux Laotiens au fusil mettaient les blancs en joue. « Ça y est, » pensa Claude, « idiotie. » Perken regardait au-delà des têtes menaçantes. Xa, pourtant, n'était pas dans la case. « S'il bouge, » cria-t-il, le regard porté derrière les assistants, « tire !» Sans abaisser leurs fusils, ils se retournèrent le plus vite possible. Deux coups de feu. Perken venait de tirer à travers sa poche. La secousse fut si douloureuse qu'il crut une seconde avoir tiré dans son genou. Mais l'un des Laotiens basculait. L'autre, debout, son fusil lâché, pétrissait à deux mains son ventre, la bouche ouverte, avec les yeux stupéfaits des mourants. La fuite générale le fit basculer à son tour, les cinq doigts dressés au-dessus des têtes en débandade. Sur le clapotement des pieds nus, le silence retomba. Savant seul était resté. « Et maintenant ?» dit-il à Perken. Il attendait, résigné, la venue des catastrophes qu'amenait toujours avec elle, plus ou moins tôt, la folie des Blancs. Le monde de bouddhisme et de nonchalance dans lequel il vivait semblait l'entourer. Au-dessus des deux corps en chien de fusil, dont le sang coulait sans le moindre bruit, il restait debout, le regard perdu, immobile comme une apparition devant la place désertée. Ceux qui criaient le plus tout à l'heure ne peuvent être que ses rivaux, pensa Perken. Il ne doit pas être fâché d'en être débarrassé. Il les vit soudain devant lui, avec ce sang qui coulait d'eux par un trou invisible, comme d'une chose qui n'eût jamais été vivante. Bien qu'il sût qu'ils étaient là, il avait l'impression qu'ils s'étaient enfuis avec les autres. Mort. Et lui, vivant, mourant, quel lien pouvait s'établir entre Savant et lui? L'intérêt et la contrainte, il le savait. Oui, on pouvait soulever ces hommes, mais il fallait cette révolte ou cette guerre qu'il attendait depuis des années. Savant eût-il accepté de lutter contre la colonne, que la moitié du village se fût sans doute enfui. Ces alliances dont il avait attendu jadis jusqu'au sens de sa vie lui paraissait soudain fragile comme ce Laotien hésitant avec lequel il n'avait jamais combattu. Contre l'envahissement des Blancs, contre la colonne, contre ces mines qui ébranlaient les vallées, il ne pouvait compter que sur des hommes à qui il était humainement lié, sur des hommes pour qui le loyalisme existait, les siens. Et même cela... Sans sa blessure, jamais des Laotiens n'eussent osé le mettre en joue. S'il était diminué à leurs yeux, il ne l'était pas encore aux siens. Ces deux-là venaient de le voir. Et il releva la tête vers Savant. Leurs regards se rencontrèrent et il vit, comme si le chef eût parlé, qu'il était pour lui un condamné. Pour la seconde fois, il rencontrait sa mort dans le regard d'un homme. Il éprouva furieusement le désir de tirer sur lui, comme si le meurtre seul eût pu lui permettre d'affirmer son existence, de lutter contre sa propre fin. Il allait retrouver ce regard dans les yeux de tous ces hommes. Cette sensation démente d'empoigner la mort, de la combattre comme un animal qui venait de le frapper lorsqu'il avait pensé tirer sur Savant, s'étendait en lui avec une puissance de crise. Son pire adversaire, la déchéance, il allait le combattre dans l'âme de chacun de ses hommes. Il se souvint d'un de ses oncles, Obro Danois, qui, après mille folies, s'était fait ensevelir sur son cheval mort soutenu par des pieux, en roi 1-H-U-N, attentif durant son agonie, à chasser par la volonté de ne pas crier une seule fois, malgré l'appel de tous ses nerfs, l'effroyable épouvante qui secouait ses épaules comme une danse de Saint-Guy. Je vais partir. Fin de la première piste de la cinquième cassette, page 174, La Voix Royale, par André Malraux.